Mesdames, messieurs.
Quel genre d'histoire ?
Des histoires.
Et après ?
537 représentations.
La vie est roman, si tu veux.
Indisciplinaire, transdisciplinaire, chimère parfois, créature et création, reproduction, fornication entre paroles, images et sons, les arts multiples débordent des scènes et des cases préfabriquées du marché de l'art. C'est ainsi que l'indisciplinaire se définit, si tant soit qu'on puisse définir quoi que ce soit. D'ailleurs, plutôt que définir, commençons. Revenons au commencement. 1 million d'années avant l'invention de l'ordinateur, une main s'applique contre un rocher, une bouche souffle du charbon, une trace, un corps en creux. L'art est le domaine du creux. De ce qui a été un moment, à former forme, à réformer, reformuler, transformer. 1 million d'années après, une trace, un creux, toujours aussi plein de ce que nous y projetons. Imaginaire, science, technique, théorie et réflexion. Ce n'est pas la fin de l'art, c'est l'art qui a faim. Il a un creux, encore et toujours. Les siècles passent, le creux demeure. Création, procréation, tout sort d'un trou, s'en plaint, devient avide, y retourne. 1 million d'années après, les Wizards of Windows ont pixelisé le creux, mais si peu de choses ont changé. Des corps, des images, dont les manques sont plus éloquents que les contours anti-aliacés. Je vais vous dire un truc. L'art numérique est une connerie. La peinture n'est pas l'art du pinceau, ni la sculpture l'art du marteau, ni le théâtre l'art du mensonge. Peu importe les outils, les recettes, peu importe les apparences, les formes les plus actuelles, utilisant les outils les plus contemporains, continue une œuvre qui, depuis 1 million d'années, met en scène une bouche, une main, un vide immense, un instant donné. Aussi contemporain que possible, bienvenue dans cette émission consacrée aux arts multimédia, à l'occasion des 3e rencontres internationales des arts multimédia à Marseille. Bienvenue dans cette 23e indiscipline. Une émission consacrée au RIAM, Rencontre internationale des arts multimédia, organisée et proposée par Circuit Court, qui accueille depuis le 28 novembre et jusqu'à aujourd'hui, samedi 9 décembre, installations, performances, ateliers, concerts. Des rencontres qui ont l'intelligence de ne pas cantonner le multimédia dans leur outillage numérique, mais au contraire de les ouvrir largement à de nombreuses formes d'expression, hybridés, sélectionnés, tissant des liens entre dessin, architecture, photographie, musique et toutes les combinaisons possibles de l'image, du sens et du son. Quelques-uns des artistes présentés au cours de ces 3e RIAM sont avec moi sur ce plateau. Bertrand Lamarche, Benoît Broisa, d'autres viendront nous rejoindre tout à l'heure, enregistrés sur les lieux de leur création. Stahlblatt, collectif berlinois, ou Pierre Beloin d'Optical Sound. Mais tout de suite, quelques mots de Pedro Moraes, qui partage avec Philippe Stepsac et Claude Bossion la programmation et la direction de ces rencontres. Pedro, bonjour.
Bonjour.
Une 3e édition des RIAM, une dimension indisciplinaire, transdisciplinaire toujours plus affirmée.
Pour nous, c'est important d'effectivement pas fonctionner en termes de pas réfléchir en termes de support. Ça, c'est de ne pas savoir d'avance exactement ce qu'on pourrait, de pas définir d'avance les artistes qu'on a envie d'inviter. Et on ne pourrait pas définir effectivement notre envie d'exposer des artistes ou de les programmer à partir d'un seul outil, en fait. dans l'outil qui définirait comme ça en pratique. Chaque artiste a un univers extrêmement spécifique qui ne pourrait pas du tout se traduire par un label comme ça qui prédéfinirait des choses en fait. Il y a pas ça, c'est constante. En tout cas, moi je dis toujours souvent quand on entend discuter pour la programmation qu'effectivement on a affaire toujours à l'univers des artistes est à chaque fois extrêmement spécifique et c'est ce qui nous intéresse, c'est exactement ça, pas le fait de pouvoir les rassembler sur une étiquette ou sur une domination d'un festival, etc.
C'est la porosité des formes et des disciplines qui t'intéresse, le fait de pouvoir aussi provoquer des échanges.
Je crois même que les disciplines, le mot même, il est déjà très 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 fort et très connoté. Et effectivement, je crois qu'à la fois depuis au moins 10 ans, voire plus, il ne fait plus de sens. Et il y a des artistes qui effectivement circulent d'un support à l'autre, au travail. Et du coup, ce mot discipline, il est plus qu'épuisé. C'est un mot. Disons qu'on fonctionne maintenant par opposition. On dit souvent pluridisciplinaire ou transdisciplinaire, des choses. Mais le fait, c'est qu'il n'existe plus depuis très très longtemps. Enfin, il y a effectivement des supports, mais ça ne suffira jamais pour définir ou pour essayer d'approcher la pratique d'un artiste. Ce n'est pas la condition d'une compréhension, de l'interprétation de leur travail.
Une troisième édition d'Eriam, peut-être une certaine maturité qui arrive avec cette troisième édition. Quelque chose qui se travaille de plus en plus, c'est le rapport entre l'image et le son dans un contexte tout à fait autre que l'audiovisuel. Tu es d'accord avec ça?
Oui. C'est vrai que, disons que déjà, avec Philippe Stepjac, qui est quelqu'un qui approche plus spécifiquement, on va dire, tout ce qui est lié au son, on travaille en dialogue, ce qui fait qu'il me fait découvrir des choses, évidemment. Je le fais aussi découvrir des choses. Et pour nous, c'est important, enfin, effectivement, de réfléchir à comment... Parce qu'il y a toute une génération de plasticiens sonores, de musiciens qui fonctionnaient avec des machines. Et que depuis quelques années, on s'interroge, on se pose la réflexion de comment visualiser le son, comment ne pas être simplement derrière une machine, en face d'un public. Je crois qu'on en a trop vu de concerts comme ça pendant l'époque, à la fin des années 90. Et je crois qu'aujourd'hui, d'une, ils réfléchissent à la partie performative de cette présence sur la scène. Souvent, il y en a qui investissent vraiment en caractère performatif dans la façon comme ils jouent. Et ou alors, ils réfléchissent effectivement à des dialogues avec d'autres formes qui vont vers parfois pas forcément l'image, mais des pratiques très, très de mise en espace du son. Disons qu'il y a une envie aussi de la part des musiciens, si je peux parler comme ça, parce que c'est des artistes qui font de la musique, bon, ça c'est difficile de créer des passerelles de avec d'autres, souvent ils travaillent en collectif aussi. Et dans le cas de Bertrand Lamarche, par exemple, il travaille au Maison Musicien. Il y a des zones de contact entre ces deux domaines qui ne sont pas forcément celles d'Ovidjing, que ça serait simplement de coller des images par rapport à... Mais c'est effectivement des musiciens qui se préoccupent en ce moment de ce qui est de la mise en espace ou de la mise en scène doucement.
Dans le cadre de ces RIAM, de nombreuses installations, performances d'artistes bien sûr, mais aussi des ateliers proposés. Il y en a un qui me vient immédiatement à l'esprit, puisqu'on va aussi les accueillir ici à la radio. C'est l'atelier proposé par APO 33, le Poulpe, qui donnera lieu à une série d'émissions tout à fait spécifiques, raison pour laquelle ils n'apparaissent pas dans cette émission Indiscipline, mais auront l'occasion de développer leur travail de manière autonome. Quelques mots quand même, peut-être Pedro, pour évoquer leur travail, ce qu'ils vont proposer.
APO 33, c'est vrai que c'est une invitation de la part de la CM, de l'espace 5 à la Friche. Et ça correspond à la partie laboratoire de notre festival. Cette édition Et là, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas, on n'a pas, pour un commun accord, parce qu'en l'année prochaine, sera plus développé sur ce point-là. On n'a pas développé de colloques ou de conférences, enfin, on travaille de réflexion qui soit visible, parce qu'il se fait en amont. Mais à POT 33, c'est vrai que c'est le versant, disons, le plus laboratorial, au sens où c'est quelque chose qui se fait pendant le festival, dont on ne connaît pas le résultat, et qui met en place une réflexion autour des pratiques expérimentales, ça veut dire qu'elles sont expérimentées sur place avec des participants, voilà, des personnes qui veulent. Et effectivement, ils vont sûrement en parler à la radio, mais ils vont créer, c'est une sorte de poulpe, c'est même un jeu de mots avec une espèce de réseau d'espionnage en fait, qui mettent en place dans la ville pour capter des sons et après les retravailler, les recomposer et les renvoyer dans l'espace public.
Une programmation qui se développe sur de nombreux lieux à Marseille, des galeries comme la galerie SMP ou bien By Self Art Club, Zinc ECM que tu citais à l'instant, les Danaïdes aussi. On va tout de suite évoquer quelques-uns des projets qui sont proposés, notamment celui que tu proposes, Benoît Broisa, un projet intitulé Bonne Ville. Bonneville, je crois que c'est une ville de Haute-Savoie et une ville où tu es né, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Et c'est aussi le nom en fait, d'une des vidéos présentées dans le dispositif. Mais en tout, je présente en fait trois pièces. Donc on a donné le nom à l'ensemble de cette vidéo, qui est un peu, je pense, emblématique du rapport peut-être, justement, au multimédia, ouvert aussi sur quelque chose d'un peu plus décalé.
On va parler tout à l'heure d'Anaglyph, une autre proposition, mais restons quelques instants sur cette ville. Un inventaire, peut-être, de ta propre mémoire d'enfance ou d'adolescence. Il y a quelque chose de ça ?
C'est plutôt une sorte de promenade, en fait, dans ma mémoire, puisque l'idée de départ était de rendre public quelque chose qui est généralement plutôt intime, qui est en fait le souvenir des lieux où j'ai grandi, où j'ai joué, où j'ai travaillé. Donc l'idée était vraiment de projeter littéralement cette mémoire dans l'espace d'exposition, avec justement cette attention pour ce vide ou ce creux dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'en fait l'oubli dans ce travail m'intéressait autant en fait que la mémoire, c'est-à-dire que c'est une vidéo très lacunaire où l'absence de souvenirs se traduit par des plages de blanc. Et donc c'était un travail noir et blanc qui justement privilégiait cet aspect du blanc comme étant un manque, enfin une lacune, un oubli.
Un film, une animation, mais à la base un certain nombre de dessins réalisés de la manière la plus simple possible. Un fond blanc, des papiers au format A4, un trait au crayon noir, au marqueur. Quelque chose d'un peu minimaliste.
Oui, enfin, je pense qu'on peut dire justement, si on s'intéresse à la technique, que c'est un peu un espèce de grand écart entre quelque chose d'extrêmement simple qui est de l'ordre du croquis. Enfin, moi j'avais en tête le dessin qu'on fait sur les nappes ou ce genre de choses vraiment très très simples, très didactiques, qui remplacent presque le langage. Et ensuite des techniques qui sont connotées plus contemporaines à l'ordinateur. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment important en fait.
Un travail, je ne sais pas, tu me dis si je me trompe, hein, mais quelque chose qui fait se rejoindre l'espace intime et l'espace public.
Oui, tout à fait, oui, je pense.
Une manière d'aborder l'espace public, mais d'une manière très intime, et une manière peut-être d'aborder ton espace intime, ta propre intimité, en la projetant.
C'est une chose assez présente dans mon travail, en fait. La façon dont chaque personne se réapproprie. Enfin, j'aime bien l'idée qu'on habite dans des espaces, mais que d'une certaine façon, les espaces nous habitent. On intériorise, en fait, des espaces qui nous contiennent. Et donc, j'aime bien ce jeu un peu de poupée russe, où l'un contient l'autre. Et comment est-ce que la perception transforme peut-être l'environnement ? Enfin, c'est des choses assez présentes en général, comme un fil conducteur aussi dans mon travail.
Tu disais tout à l'heure que tu acceptais tout à fait cet aspect lacunaire du dessin, d'avoir des plages blanches, d'avoir des éléments qui ne sont pas inscrits. Est-ce que ce dessin qui comporte des lacunes, qui se stylise peut-être quelque part, ça a quelque chose à voir avec le glyphe, avec le signe ? Est-ce que c'est quelque chose qui glisse du dessin pour aller vers l'écriture ?
Pour moi, enfin, c'est un peu presque le processus inverse. C'est que je suis parti d'un inventaire en fait, d'objets que j'avais en mémoire, de maisons, d'arbres, de voitures. Et tout ça faisait un peu comme une espèce de vocabulaire Enfin, vraiment quelque chose de... Enfin, très lié au langage, aux signes, en fait. Et l'idée, c'était de reprendre ces signes et de les traiter comme s'il s'agissait d'objets, de perceptions. Et donc, vraiment redonner quelque chose d'affectif à quelque chose qui était au départ plutôt, plutôt froid, enfin, plutôt de l'ordre du concept, en fait.
Si froid d'ailleurs que la neige y tombe souvent, voilà. C'est un élément qu'on retrouve, c'est ça, des flocons de neige qui en permanence tombent.
Toujours aussi dans ce rapport au blanc, puisque c'est vraiment une vidéo sur la mémoire, et j'aimais bien l'idée que le dessin en général est plutôt un noircissement, on part du blanc, on sature avec le noir, et j'aimais bien l'idée que dans cette perspective de la mémoire, on tend plutôt vers le blanc et vers le vide. Et donc cette neige pour moi était aussi un moyen de mettre en point de fuite le blanc vers lequel tout ça va peut-être tendre.
On peut peut-être aussi, si tu veux bien, évoquer une deuxième pièce que tu proposes, intitulée Anaglyphe. Alors en anaglyphe, tu vas peut-être tout de suite nous expliquer ce que c'est. Je crois que ça a à voir avec la stéréoscopie, c'est ça ?
Voilà, c'est le vieux procédé 19e qui consiste à superposer deux images en rouge et en bleu. Et donc on met les lunettes un peu désuètes qui permettent de dissocier les images et de voir en relief.
Des images choisies dans l'actualité, enfin, des images de guerre, je crois, particulièrement.
Non, enfin, ça c'est un travail que j'ai mené depuis assez longtemps, que j'ai montré dans certaines expositions. Mais celui que je présente à la galerie SMP est plus justement en lien avec la vidéo Bonneville et basé sur des dessins que j'ai réalisés moi-même au crayon et qui sont aussi une espèce de projection comme ça d'un paysage intérieur, un paysage imaginaire.
À la base, un anaglyphe, c'est réalisé avec un appareil photo un peu spécial, à deux objectifs. Ce que tu as fait, toi, bien sûr, c'est utiliser des photographies normales, mais que tu as retraitées, que tu t'es appropriées, et c'est toi-même qui crée ce relief. C'est une manière de t'approprier l'image.
Oui, enfin, ça, c'est donc pour
un le travail, j'imagine, assez long. Assez,
voilà, c'est ça. Ouais. Moi, c'était né, en fait, ce travail spécifique sur les photos de presse, de ma propre expérience, en fait, d'artiste, mais peut-être de consommateur ou spectateur de l'information. Donc, le fait d'être un peu le dernier maillon de la chaîne de l'information. Et c'était un peu l'idée de faire un travail, finalement, sur ces images et de peut-être pas seulement les recevoir comme ça, passivement. Et donc, la durée du processus de réalisation des images était pour moi très importante parce que c'est un temps que j'investis dans l'image, dans la représentation. Et là aussi, il y a un lien peut-être au signe, c'est-à-dire que l'image de presse telle que je la prends dans le magazine est une image très cadenassée, très fermée, où en fait les signes sont réduits vraiment à leur niveau le plus didactique. Et moi, mon travail consiste aussi à m'intéresser à des choses qui ouvrent le sens dans des directions un peu nouvelles, que ce soit le paysage, les personnages. Enfin, c'est ramener quelque chose de plus ouvert, de plus fluide par rapport à une image très fermée.
Est-ce que c'est une manière de, comment dire, de pas d'opposer le réalisme à la réalité, mais en tout cas de montrer une certaine ambiguïté qu'il peut y avoir justement dans ces perceptions du réel ?
Moi, je pense déjà que mon travail est plus sur l'image telle qu'elle est imprimée dans le magazine que sur vraiment la photographie de presse elle-même. En fait, c'est vraiment l'image par rapport au texte qui m'intéresse dans ce travail-là spécifiquement. Et donc, c'est vraiment donner aussi une autonomie à l'image et l'extraire du contexte illustratif, du moins.
Est-ce que c'est un peu cette idée qu'on ne voit du monde que des représentations ?
Oui, tout à fait, oui.
Que c'est une société du spectacle ? Ça me fait penser à Guy Debord, je ne sais pas.
Je le prends peut-être aussi dans un sens un peu plus positif, puisque je pense que Richard Dawkins qui a écrit un livre que je trouve assez intéressant où il élabore la théorie du mème construit sur le principe du gène. En fait, il décrit l'humain comme étant une espèce d'animal qui fabrique quelque chose qui se répand au-delà du biologique au niveau des idées. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose de très important d'avoir cette faculté de connaître le monde part beaucoup de ressources médiatiques, on va dire, et de connaître le monde par témoignage, par discours rapporté. Enfin, quasiment tout ce qu'on connaît de la réalité, on le connaît par du témoignage, et c'est pas forcément négatif non plus.
On retrouve dans quelques secondes un autre artiste présent dans le cadre de ces troisièmes RIAM. Il s'agit de Bertrand Lamarche. Ton travail a souvent rapport avec l'architecture, avec une modélisation d'une ville et dans cette ville d'une sorte de démesure. Est-ce que ce terrain ombelliférique que tu nous proposes là, c'est quelque chose d'un terrain vague qui vient s'insérer justement dans cette espèce de vision un peu panoptique comme ça d'une ville monstrueuse et qui recouvre le monde entier ?
Non, j'ai travaillé simplement à un moment donné sur un quartier nancéen, qui est le quartier de la gare, où il y a effectivement des ensembles urbains assez importants, mais c'est simplement un quartier qui a une certaine échelle, comme beaucoup de villes ont une certaine échelle. Il n'y a pas de dimension utopique ou démesurée dans les choses qui m'intéressent. La notion du terrain vague est évidemment une notion intéressante dans la mesure où, si c'est un... Enfin, là, en ce qui concerne le quartier nancéen, où il y en avait un, c'était vraiment un terrain vague qui était dans la ville elle-même. Et c'est simplement le concept, pas du terrain vague forcément, mais de l'endroit de l'espace vide, est un endroit d'où l'on peut voir des choses. Et ce point de vue-là, je le trouve quand même important. Pouvoir prendre un peu de recul à l'intérieur même des choses pour les voir. Je trouve que c'est un concept important.
Les représentations de la nature sont souvent idéales, idéalisées, édéniques, jolies petites plantes, jolis petits animaux. Et au contraire, ce que tu présentes toi, c'est un champ de plantes empoisonnées. C'est une espèce de contre-pied par rapport à cette vision édénique, paradisiaque de la nature.
L'idée du jardin ou l'idée de l'Arcadie n'est pas une idée qui me déplaît. Au contraire, j'aime l'idée du jardin comme endroit tendre ou réjouissant. Mais je trouvais aussi assez réjouissant d'imaginer un parc relativement au parc d'attractions ou au parc de promenade, où là, tout à coup, on se retrouverait vraiment en danger. L'idée aussi, dans le texte du projet, de proposer aux gens de revêtir une combinaison, un masque et des lunettes pour se protéger, est une idée qui me plaît, dans la mesure où... Oui, c'est simplement pour tourner autour de la question du parc d'amusement.
Une promenade qu'on accomplit à pas lents. Est-ce que c'est volontaire de ta part, cette manière de ralentir le mouvement ? Est-ce que ça annonce quelque chose d'un peu inéluctable ?
Non. Non, d'ailleurs, je ne crois pas que... Quand on a... On parlait de lenteur tout à l'heure, mais c'est pas lent. On s'est à peu près basé sur un pas humain, et c'est même un peu plus rapide. Donc, effectivement, la caméra glisse, c'est peut-être ça qui provoque un effet de lenteur, parce que le mouvement est très fluide. Mais il n'y a pas de... C'est pas lent comme déplacement.
Il n'y a pas cette idée de slow motion,
en fait, non.
Cinématographique.
Il y a bien l'idée du travelling ou du plan séquence infini. Mais je crois que c'est le glissement qui peut-être implique ou fait apparaître cette idée de lenteur. Mais c'est plutôt le glissement, je crois, le côté lisse du mouvement.
Une promenade qui est sonore. Aussi, une collaboration avec un artiste qui s'appelle Eric Minkinen. Comment est-ce que vous avez travaillé cette collaboration justement entre les images que tu modélises et le son ?
C'était un peu C'était un peu complexe parce que j'avais demandé, on avait un certain laps de temps, et j'ai demandé à Eric de travailler avant qu'on ait les images. Enfin, on faisait les images en même temps qu'on faisait le son. Donc c'était pas toujours facile pour lui de faire ça. Donc à chaque fois qu'il y avait des éléments qui apparaissaient, je lui fournissais. Et puis je lui avais demandé au départ, parce que c'est une commande de ma part, d'imaginer un son à la fois un peu merveilleux et un peu inquiétant. C'était un peu les deux données de départ. Et puis, que le son soit comme une plateforme horizontale sur laquelle on posait l'image. Et là, ce qui a été quand même assez dur, mais je trouve que c'est une problématique intéressante, c'est à quel point on se rend compte à quel point le son produit lui-même des images en général, et qu'il a fallu essayer de mettre ça en retrait, puisqu'on avait déjà des images.
Indiscipline sur Radio Grenouille, on se retrouve dans un instant avec Pierre Beloin et Stalblatt. Pierre Beloin, bonjour.
Bonjour, Grenouille Radio.
Tu présentes une installation intitulée Awan Sigwawini Spemki, j'espère que j'écorche pas trop. Un aller-retour entre visuel et sonore, le fruit d'une résidence croisée entre l'Alsace et le Canada, plus précisément le Québec. On pourrait dire qu'il s'agit de 8 paysages, à la fois visuels et sonores, formant ensemble quelque chose qu'on pourrait appeler un paysage mental. Est-ce que c'est comme ça que tu l'imagines, toi ?
Oui, on peut vraiment le définir comme ça. C'est aussi une référence au nom de mon label qui s'appelle Optical Sound. Et moi, ce qui m'intéressait depuis longtemps, c'était de faire des images, non pas animées, mais des images fixes, avec des bandes son qui, elles, sont une espèce de cinéma pour l'oreille, entre guillemets. C'est un petit peu l'intitulé du label Metamkin à Grenoble, en fait, que je trouve très bien. Je trouvais que c'était beaucoup moins directif en fait que le cinéma habituel où on a un scénario, une musique et donc une direction fixe. Là on a une image fixe dans laquelle le spectateur peut divaguer au niveau du regard et une trame sonore, un paysage sonore dans lequel l'esprit peut divaguer. Alors je reviens un petit peu juste sur les titres. Awan Sigawini Spemki veut dire donc air au printemps paradis en indien Abenaki. J'ai choisi ce titre pour cette expo qui a donc eu lieu au Canada au Centre d'art Langage Plus. Cet échange se faisait par le biais du FRAC Alsace en fait. J'ai choisi ce titre parce que tout simplement on m'a dit écoute Pierre, si tu choisis un titre en anglais, tu comprends, au Québec ça va être un peu délicat. Nous, on n'aime pas trop que vous, les Français, employiez des mots anglais. C'est un peu snob et pédant. Alors j'ai essayé de traduire mon titre qui était en anglais au départ, qui s'appelait Stones, Bones and Skins, en français, puis ça passait pas très bien. J'ai choisi un autre titre en français, c'était pas terrible non plus, et j'ai essayé d'expliquer à la directrice du centre d'art que le langage anglo-saxon faisait partie, entre guillemets, de ma culture musicale et artistique, et que c'était pas forcé ou snob. Et donc finalement, le compromis que j'ai trouvé, c'était de prendre un titre en indien Abenaki, qui sont finalement les originaires de cette région du Canada et des Amériques, les premiers habitants, et non pas les Français ou les Québécois. Voilà.
Est-ce que du coup, dans cet aller-retour entre le visuel et le sonore, il est, j'imagine, pas tellement question d'audiovisuel, enfin, au sens un peu trivial du terme, mais plutôt de trouver une sorte de synesthésie, de lien vraiment profond, en profondeur, entre cet aspect visuel et cet aspect sonore?
Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis longtemps. Et en l'occurrence, les tirages sont de très très grand format, de 3 mètres sur 2. Donc je voulais vraiment que le spectateur pénètre dans l'image, hein, et soit complètement inséré aussi dans le son. C'est pour ça que l'écoute de chaque bande son en relation avec chaque photographie se fait au casque, hein, en fait. Donc c'est une immersion, et le terme synesthésie, oui, correspond assez bien. Si bien que pour le vernissage, j'ai aussi répandu sur le sol des copeaux de bois qui avaient un parfum assez particulier. Donc je voulais que ce soit un tout, une synesthésie un peu analogique tout de même, parfois.
Comment est-ce que tu as mis en œuvre ce dispositif? Je crois que ça a commencé par prélever des sons dans l'environnement que tu as visité, donc au Québec, à Alma, je crois. Et ensuite, une transmission des sons auprès de plasticiens sonores. Explique-nous un petit peu ce processus.
C'était un peu ce principe. Moi, je travaille souvent sur un mode collaboratif. Donc, je suis parti à Alma. Et avant de partir dans cette petite ville Saguenay-Lac-Saint-Jean au fin fond du Canada, c'est-à-dire à 8 heures de Montréal, j'avais une vision de cette ville comme Twin Peaks. Effectivement, c'était un peu le cas. Le seul lien que j'avais avec mes contacts en France a été Internet. Et ce que j'ai fait, c'est 8 prélèvements photographiques, 8 prises de vue. Et sur chaque lieu de prise de vue, j'ai fait aussi des prélèvements sonores, des ambiances sonores, différents points de vue sonores. Donc c'était de la matière brute. Depuis cette matière brute sonore et depuis les photographies, j'ai fait des propositions à des amis plasticiens et musiciens en France, hein, avec qui j'ai l'habitude de travailler, des gens que j'ai pu éditer autour du label Optical Sound. Et je leur ai envoyé les 8 photographies. Je leur ai dit, choisissez entre une des 8 photos. Une fois que vous avez choisi la photo, je vous envoie les prises de son, les échantillons sonores que j'ai fait vis-à-vis de cette photo-là. Et avec ces sources sonores brutes, hein, vous allez créer un morceau qui est destiné à être écouté en vis-à-vis de la photographie que vous avez choisie en grand format. Voilà. J'avais une idée globale de ce que ça pourrait donner au final, mais on a toujours beaucoup de surprises, et c'est ça qui est assez intéressant et excitant. Donc j'ai vraiment eu des découvertes d'interprétations sonores de mes photographies qui étaient vraiment étonnantes. Il se trouve que les choses arrivaient un petit peu en temps réel aussi, par Internet, par FTP, les morceaux arrivaient au Canada comme ça, et cet échange croisé France-Canada était vraiment, vraiment très, très stimulant. Et il se trouve qu'au final, tout est assez hétérogène et fluide et fonctionne très 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 bien. Donc le hasard fait bien les choses finalement. Je suis vraiment ravi. Et ces rencontres-là avec ces gens comme Sébastien Roux, Régnier Ricollet, Norsk, Black Sea Fishy, enfin il y en a plein, se font naturellement. Ce ne sont pas des choses forcées. C'est une espèce de famille, mais ce n'est pas une mafia non plus. Les choses évoluent, s'enrichissent, il y a un réseau qui se tisse. Je fais appel à eux, je les édite, ils travaillent avec moi. Ça se fait vraiment de manière très fluide et naturelle, et c'est ça qui me plaît. Il n'y a rien de forcé. De toute façon, je ne suis pas dans une optique de lucrative. Je ne vis absolument pas avec ça. Et ça se fait vraiment par plaisir.
L'idée dans cette transmission, c'est de provoquer un déplacement du sens, un déplacement de la matière visuelle, sonore. Et dans ton idée, ce déplacement, il est en lui-même créateur d'une énergie.
Par déplacement, ce sera peut-être la prochaine question, mais je parlerai plus du journal intime qui a été écrit à ma place par Nicolas Ledoux d'Ultralab et de Labomatic, hein, qui est artiste et graphiste. Et là, il y a eu un véritable déplacement et une fiction par rapport à ce que j'ai vécu. Hein. Là, du coup, je ne réponds pas à la question, hein, mais... Ce journal intime a été écrit donc par Nicolas Ledoux, qui est à la galerie Magda Daniz, hein, uniquement en se basant sur ce que j'appelais mes croquis photographiques que je lui envoyais chaque jour par Internet. Hein, donc une espèce de carnet de bord. Hein, et en se basant sur ces photographies au jour le jour, il s'est dit, écoute Pierre, je voudrais bien écrire ton journal intime à ta place et appeler ça « Dans la peau de Pierre Beloin ». Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, on va tenter la chose. Et il a commencé à m'envoyer des récits en se basant sur ses photos. C'était relativement pas tordu, mais il y avait une espèce de distanciation, de fiction, de quelque chose d'irréel, et quelques recoupements avec ce que je vivais vraiment au Canada. Donc au final, ça s'est publié dans le catalogue, hein, et ça s'appelle « Dans la peau de Pierre Beloin » par P.N. Ledoux. Hein. Et je trouve que ça fonctionne très bien, c'est vraiment assez ironique, plutôt cynique et avec une distance fictionnelle très très étonnante. Ouais.
En même temps, ça correspond bien à ton travail, une certaine part de jeu de miroir, enfin d'auto... comment on pourrait dire, pas d'autobiographie, mais de regard sur toi-même au travers de ton travail. Et là, le fait qu'il soit médiatisé par quelqu'un d'autre, c'était toujours dans cette idée un peu de l'espace miroir, à la fois l'espace que tu crées au travers de cette installation et peut-être aussi celui que tu proposes aux spectateurs qui vont la voir.
Ouais, tout à fait, ça m'intéressait et ça m'intéresse toujours de passer par des filtres, des prismes, hein, des gens qui interprètent ce que je fais. Qui donnent leur sens propre aux images ou aux sons que je peux transmettre. Une espèce de travail global et collaboratif. Quand on me dit tu as un travail de plasticien, mais aussi un travail de producteur au sein de ton label, je dis oui, c'est vrai, mais ça fait partie d'un tout, en fait. C'est quelque chose de global. Disons que je vais fabriquer des disques comme quelqu'un ferait de la sculpture. Et c'est un travail collaboratif. Je travaille avec plusieurs personnes, des artisans qui travaillent en usine ou des industriels quoi, qui fabriquent du polycarbonate avec du son dessus, des graphistes. C'est quelque chose de global. Voilà. Effectivement, en fait, j'ai démarré un petit peu cette effusion dans mes activités et la naissance du label était en 97 aussi, date de la naissance de cette galerie Glassbox, rue Oberkampf, hein, dont la première exposition s'appelait « Ne me quitte pas ». Et moi, je fais partie des membres fondateurs de cette galerie qui vient juste de fermer, là, très récemment. J'ai travaillé de 97 à 99 là-bas et ça m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Notamment sur ce mode collaboratif, hein, et sur cette énergie. En fait, le principe de Glassbox, c'était une galerie gérée par des artistes, hein, dont le commissariat d'exposition était fait par des artistes. C'était un des premiers modèles en France sur le mode des artistes run spaces anglais, en fait. Depuis, on a eu beaucoup d'autres, hein, et bon, c'était vraiment quelque chose de très très bien pour moi. J'ai quelques projets autour de la Villa Noailles aussi, je trouve que c'est un lieu magnifique. En fait, il y a beaucoup beaucoup de choses dans la région PACA, entre guillemets, beaucoup de choses à faire, mais il faut savoir que l'association et le label restent basés à Strasbourg, le siège social en tous les cas. Donc en tous les cas, il y aura peut-être ce qu'on appelle une sous-division dans le sud de la France, qui sera plus axée autour de ce qu'on appelle l'illustration sonore, parce que je crois qu'il y a beaucoup de lacunes au sein des institutions culturelles autour du son. Il suffit par exemple, récemment, je suis allé voir le site web d'Art Press. Moi, je travaille de temps à autre avec eux, je fais des partenariats. Mais la musique sur la page de garde du site web d'Art Press est à tomber par terre, elle est horrible. C'est vraiment, je trouve qu'il y a des lacunes et des distances entre les arts plastiques et la musique qui ne sont pas encore comblées. En 2006, hein. C'est quand même catastrophique, hein. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire dans ce sens-là, design sonore et art plastique, hein. Finalement les liens sont pas si resserrés, pas tant resserrés que ça. We'll be right back.
Dernière rencontre dans le cadre de ces troisièmes rencontres internationales des arts multimédia, à la découverte du collectif Stalplaat Sound System d'Amsterdam, représenté par Gert-Jans Obin et Karsten Stabenhoff, qui nous décrivent l'installation intitulée Yoko Mono, qu'ils ont présentée à Montevideo.
Yoko Mono is, if you say it's simple,
Yoko Mono, c'est simple. 10 petites voitures, jouets, équipées d'une aiguille de son. Elles jouent des disques vinyles et sont équipées d'un transmetteur FM.
They have a small FM transmitter and they transmit the sound that come from the record. And we have 10 little radios and they receive the signal. And then each of us has 5 records and 5 signals, and we mix these 5 signals to stereo signal.
On a 10 petites radios qui reçoivent le signal. Chacun de nous deux a 5 disques et 5 voitures. On mixe ces signaux en un signal stéréo qui est amplifié et diffusé.
We do the concert, and we have mostly loop records.
Il faut que vous imaginiez que ces petites voitures marchent à piles. Les piles perdent leur charge progressivement, les petites voitures ralentissent. Le son des transmetteurs devient distordu. Le mouvement des voitures entre les radios crée aussi de nombreuses interférences et du bruit. C'est un système très instable. Parfois, dans les grandes villes, les émetteurs des radios FM accrochent, donc on ne peut pas vraiment contrôler ce système.
Especially like when in the city the local radio band is very full and packed, that it's very hard for the little transmitters to get through it from time to time with the local radio band. So all these factors can't be done.
You can't really see where you put the needle because the car is a bit clumpy and it's not like with a DJ record player where you really can see where the needle is.
Tu ne peux pas savoir exactement où tu mets l'aiguille sur le disque. Tu peux bien sûr pré-écouter comme un DJ avec un casque. Nous avons fait des vinyles avec des boucles comme des outils pour ce show.
Used to using this, but it's really like sometimes very blindfold which sounds are coming.
On est quand même un peu en aveugle.
Yeah, surprising ourselves with the sound.
Everything is deteriorating. We did Yoko
Mono. Tout se détériore. Nous avons donné cette performance en Autriche et après 10 minutes, tout était complètement foutu.
And in 10 minutes, it is completely gone. So and then it plays continuously.
Ça joue continuellement. Aussi rapidement, le son disparaît sur de nombreux aspects.
On so many levels, and it's also if we set it up, we don't know how clear our signal is.
Quand nous installons, nous ne savons pas si le son va être clair. Alors nous ne savons jamais exactement quelle composition ça va donner. Quelquefois, c'est très distordu et nous jouons dans un registre très limité.
We can play in only in a very limited way. So and then at the same time, these batteries go dead. So you have at all these levels things falling apart. So it's very strange. It's like building a sand castle, you know.
Comme les batteries se vident, le son s'autodétruit. Alors c'est étrange, c'est comme un château de sable, ça tombe tout le temps. Mais c'est amusant d'essayer de contrôler ce processus. Il y a toujours quelque chose qui interfère.
This process, we say there is always a third person part of our show. And that is this coincidence element. So we do not play alone. There is someone else always interfering. Sometimes all of a sudden radio comes in, and we don't realize it, and we have not planned this, and we don't know even on what channel.
C'est comme descendre une montagne dans une voiture sans frein. C'est plutôt marrant.
You know, it's like going down a mountain in a car and you have no brakes. You must steer, you know, to survive. But it's still a thrill, you know.
Parfois du Stahlplatte Sound System qu'il se situe dans l'esprit de Fluxus, ce mouvement artistique des années 70. Et le titre de la performance, Yoko Mono, fait évidemment penser à Yoko Ono, la femme de John Lennon qui faisait partie de ce mouvement artistique. Est-ce que c'est le cas ?
It's also the cars are made in Japan. And they are just normal toys.
Cette installation est faite avec des jouets standards qu'on trouve au Japon. Et notre attitude est plutôt humoristique. On ne se prend pas trop au sérieux. Il y a une référence à Fluxus, non seulement dans cette installation, mais aussi dans d'autres performances où on utilise des appareils ménagers. Il y a une tradition Fluxus de faire ça.
Fluxus is more like a related style, and if an art style is related, Fluxus is the most related. They have a sense of humor.
Fluxus est marqué par un certain sens de l'humour et aussi un certain minimalisme. Mais nous n'allons pas jusqu'aux extrêmes où les artistes de Fluxus vont.
Fluxus that extreme as Fluxus people do themselves. We are more second or third generation.
Nous sommes
Fluxus.
Plutôt des Fluxus de la deuxième ou troisième génération.
In two cars, there are no video cameras built in the car already.
Dans deux des petites voitures, il y a des caméras vidéo qui marchent aussi à pile.
We are working together with Bas van Koolwijk, who is a video artist.
Nous travaillons avec un artiste vidéo qui peut moduler les signaux vidéo à partir des sons que nous lui envoyons.
Generates images out of the sound that we send to him. The video is still very much in process. It is very difficult to add to a setup That is very visual.
C'est assez difficile d'ajouter à un set qui est déjà très visuel un autre composant qui est aussi visuel comme la vidéo. Il faut trouver la bonne manière d'ajouter la vidéo à la performance.
How you can add this video element to the show. So yes, we use what we have already. We have several very small cameras.
Alors, nous avons des caméras et quelques idées sur comment les utiliser pour de futures performances.
Yes, for future experiments, and actually with video up to now,
c'est intéressant, il y a quelques idées que nous voulons creuser, mais c'est encore dans une phase expérimentale. Ce n'est pas encore tout à fait prêt.
We have not really found an answer where we think this is appropriate, this is really functioning. It's very interesting, and there are still a few ideas that we want to pursue, but it is very much a laboratory phase, and we think that we are making progress, but it's definitely not ready yet.
On arrive maintenant au terme de cette 23e indiscipline consacrée aux rencontres internationales des arts multimédia qui s'achève aujourd'hui. Précipitez-vous donc à la galerie By Self Art Club, 101 rue Consola, pour parcourir le terrain ombelliférique de Bertrand Lamarche, ou bien à la galerie SMP, 61 rue Consola, pour voir l'installation Bonneville de Benoît Broisa. Retrouvez sur internet les performances du Stahlplatte Sound System, www.stahlplatte.org, et les productions du label Optical Sound, www.opticalsound.com. Le poulpe poursuit, lui, sa tentaculaire croissance à l'ECM de la Friche jusqu'au 15 décembre. Et puis ce soir, c'est une clôture en musique de ses troisièmes RIAM, à l'embobineuse, avec une soirée Return of the Mashup avec Uric R, Bong Ra, Sheetmat, DJ Wet et Jean-Patrick Pelletier. C'est à l'embobineuse donc, 11 boulevard Bouesse, l'entrée 8€ plus adhésion. Merci à tous les participants de cette émission. Rendez-vous l'année prochaine pour la suite de nos rencontres indisciplinaires. D'ici là, restez à l'écoute de la grenouille.
Mesdames, messieurs.
On descend.
Quel genre d'histoire?
Des histoires.
Et après?
537 représentations.
La vie est romance.